Étranger, ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts? Donnons tout de suite la parole à notre invité.
Si l'auditeur en train d'écouter le podcast ferme les yeux, il serait tout à fait capable de reconnaître votre voix de la mienne. Mais le style en littérature, c'est exactement la même chose. C'est le grain, le modelé d'une voix, mais à l'écrit. C'est-à-dire, je crois que tout écrivain devrait aspirer à ce qu'un lecteur ayant déjà lu un de ses livres puisse en ouvrir un autre, sans avoir lu le nom de l'auteur sur la couverture, et en quelques lignes se dire « Ah, ça c'est dû à Marcel Proust, ou du Flaubert, ou du Jean Echenoz, ou du Patrick Modiano, ou du Maïlis de Carangal. »
Bonjour François-Henri Désérable.
Bonjour.
Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez un nom très de romancier du 19e siècle, un très beau nom, un peu prédestiné?
Oui, mais d'ailleurs, quand j'ai publié mon premier livre qui s'appelait « Tu montreras ma tête au peuple » et qui était sur les derniers instants de grandes figures de la Révolution française, je sais que certains libraires m'ont dit qu'ils croyaient une réédition en lisant mon nom sur la couverture d'un écrivain du 19e qu'on aurait oublié. Donc ouais, j'imagine, enfin c'est pas la première fois qu'on m'en fait la remarque. Et pourtant c'est un nom qui est québécois. J'ai des origines québécoises du côté de mon père.
Alors au-delà de cette question d'une prédestination auquel je ne crois pas forcément, mais je ne sais pas, peut-être vous m'en direz plus si vous
le croyez.
Si,
moi j'y crois pas mal. Je pense que François-René de Chateaubriand avait un nom d'écrivain et finalement il n'avait plus qu'à construire une œuvre pour la signer de son nom. Enfin c'était même plutôt, anecdotique. Il avait ce nom d'écrivain, il était écrivain avant même d'avoir écrit une seule ligne. Mais bon, il a quand même décidé d'en écrire quelques-unes.
Et voilà, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire, parce que c'est une activité un peu hors du commun?
Moi, c'est assez tardif. Je ne me mêlais absolument pas de littérature, de livres, de quoi que ce soit avant l'âge de 18 ans. Je jouais énormément au hockey sur glace. Je suis devenu joueur de hockey professionnel à 18 ans. Et j'ai commencé à lire à cet âge-là. À découvrir la littérature à cet âge-là. Et très vite, j'ai su que c'était... de cette manière-là, en lisant, en écrivant, que je voulais remplir le cours de mon existence. Et j'ai commencé à écrire au moment où j'ai commencé à lire. Or, pour devenir un bon écrivain, je pense qu'il faut avoir beaucoup de lecture derrière soi, ce qui n'était absolument pas mon cas, et ce qui explique pourquoi le premier livre que j'ai écrit et que j'ai envoyé à une vingtaine de maisons d'édition a essuyé une vingtaine de lettres de refus. Mais j'ai persisté et finalement, quand j'ai eu 25 ans, j'ai publié « Tu montreras ma tête au peuple ».
Et là, ça a marché.
Ça a marché, oui. Enfin, il a été accepté par Jean-Marie Lacaftine aux éditions Gallimard, et ce qui explique la reconnaissance éternelle que je peux avoir pour lui et qui est toujours mon éditeur aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard. Et à partir de là, j'ai décidé de ne faire que ça, de me consacrer à la littérature et d'essayer de... je n'ai pas d'activité annexe en dehors de l'écriture.
Alors c'est vrai que dans votre biographie, le hockey sur glace, forcément, on s'y attarde. D'autant plus en France, où on a toujours un peu tendance à opposer le sport, enfin l'esprit, le corps, et Descartes, tout ça. Vous, est-ce que vous diriez que le sport, ça a pu vous aider dans votre pratique d'écriture? Ça n'a aucun rapport? C'est quelque chose qui vous avez besoin?
Je pense que cet esprit compétiteur que j'ai eu assez jeune m'est resté. Sauf qu'à la différence du hockey sur glace, à la différence du sport, la compétition n'est pas contre un adversaire, puisque moi...
que les écrivains qui publient à la rentrée littéraire aient écrit de meilleurs livres ou vendent plus de livres que moi, finalement, ne me porte pas préjudice. Ce n'est pas une course, ça n'est pas, il n'y a pas de première marche du podium, mais c'est une compétition avec soi-même. C'est-à-dire que je crois que j'ai tiré du hockey sur glace et de la pratique d'un sport à haut niveau une certaine exigence envers moi-même et une certaine discipline surtout. Et je crois que c'est vraiment la discipline qui m'est profitable aujourd'hui et qui m'est venue assez tôt avec la pratique du hockey sur glace.
Précisément dans votre discipline d'écrivain, est-ce que vous vous imposez comme ça des horaires par exemple ou des... J'aime bien le mot contrainte, moi, même si parfois...
Je crois que c'est Kierkegaard qui avait pour devise « Nulla dies sine linea », pas un jour sans une ligne. Et moi, je n'ai absolument pas... Je n'ai pas du tout la même devise. Il y a des jours, voire des semaines entières où je n'écris pas une ligne. En revanche, j'ai l'impression que tout ce que je fais dans ma vie... vers l'écriture, c'est-à-dire que je ne voyage pas, si je voyage c'est toujours avec l'idée d'en tirer un texte, si je vis quelque chose c'est toujours avec l'idée que ça va me servir dans ma vie, dans ma vie d'écrivain, mais je n'écris pas tous les jours, je lis tous les jours, je le dis assez souvent, une des raisons pour lesquelles je suis devenu écrivain c'est parce que je voulais que me trouvant un après-midi un livre à la main, eh bien, allongé sur mon canapé, on baisse la voix et qu'avec une tonalité respectueuse, on dise « il travaille ». Et finalement, je crois que... il y a autant de manières d'écrire qu'il y a d'écrivains, mais je connais peu de très grands écrivains qui ne soient pas avant tout de très grands lecteurs. Voilà, cette très belle phrase de Gracq, en lisant, en écrivant. Et je crois que c'est... Oui, moi, c'est une manière d'emplir le cours des jours qui me convient tout à fait.
Alors, précisément, on parle de lecture. Je crois comprendre que Romain Gary, c'est quelqu'un d'important pour vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres comme ça, grandes références?
Romain Gary, évidemment, oui. J'ai écrit un livre inspiré d'un personnage de Romain Gary qui s'appelle Un certain Monsieur Piekielny. Vous savez que...
Je suis content que vous le prononciez parce que je ne sais pas.
Oui, c'est un peu polonais. Donc, c'est la mère de Romain Gary lui disait « Mon fils, tu seras un grand écrivain, tu seras ambassadeur de France, etc. etc. » Enfin, elle avait de très grandes ambitions pour lui. Et Gary raconte dans La promesse de l'aube, ce livre qui est son autobiographie romancée, que la plupart des habitants de l'immeuble où il vivait avec sa mère à Vilnius, qui à l'époque s'appelait Vilno, se moquaient de ses prétentions, de ses prédictions, sauf un voisin, ce monsieur Piekielny, qui un jour l'a coincé dans la cage d'escalier et qui lui a dit « Écoute, je sais que les mères sentent ces choses-là, je pense que tu vas devenir écrivain, alors promets-moi que lorsque tu rencontreras les grands de ce monde, tu leur diras qu'au numéro 16 de la rue Grande Paulanka à Vilno habitait un certain monsieur Piekielny. » Et Gary raconte qu'il a toujours tenu cette promesse et que devant le général de Gaulle, devant la reine d'Angleterre, la télévision, face à des millions de téléspectateurs, il a toujours prononcé cette phrase qui paraissait un peu mystérieuse à ses interlocuteurs. Et moi, je suis parti à la recherche de ce monsieur Piekielny, chercher à savoir qui il était, ce qu'il était devenu. Et à travers lui, je mène une enquête sur Romain Gary, qui évidemment est un écrivain qui a énormément compté pour moi. Mais il n'est pas le seul et il n'est pas le premier. L'un de mes premiers... comme beaucoup de lecteurs, l'une de mes premières lectures marquantes, c'est Alexandre Dumas. Et puis, mais je crois que le livre qui a été décisif, celui qui m'a donné envie d'écrire, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains contemporains pour qui j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup d'estime, qui nourrissent mon travail. Je pense à Jean Ichnoz, à Pierre Michon, à Y. Chevillard, à Jean-Philippe Toussaint. Puis il y a des poètes aussi, beaucoup de poètes, qui sont plutôt un peu plus anciens. Et des poétesses, une très grande poétesse, André Chédid, que j'aime énormément. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrivains qui comptent, qui sont des compagnons de route, qui sont des... beaucoup de figures tutélaires, mais aussi de... Oui, des compagnons, plutôt des compagnons. Ouais.
Alors, dans votre dernier livre, Mon maître et mon vainqueur, là, c'est justement un poète, donc qui... C'est Verlaine.
Ouais, c'est tiré le livre et enfin le Mon maître et mon vainqueur, c'est un vers de Verlaine, un recueil assez méconnu qui s'appelle Chanson pour elle, dans lequel il écrit: es-tu douce ou dure, est-il sensible ou moqueur ton cœur? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je n'avais pas le titre. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à commencer un livre sans avoir le titre. Et il se trouve que c'est un roman d'amour, c'est le roman d'une passion amoureuse, et il se trouve que Milan Kundera s'est accaparé à peu près tous les meilleurs titres qui existent pour les romans d'amour: L'insoutenable légèreté de l'être, La valse aux adieux, Risibles amours, qui sont des titres que je trouve absolument magnifiques. Et quand j'ai lu ce vers de Verlaine, eh bien, j'ai su d'emblée qu'il allait être le titre de mon livre. Et évidemment, bon, ce livre tourne beaucoup autour de la poésie, puisque c'est l'histoire d'un homme sur lequel on a retrouvé un revolver. Enfin, cet homme a tiré sur quelqu'un et on retrouve sur lui un revolver, et qui est d'ailleurs le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud en 1873 à Bruxelles et qu'il a acheté aux enchères. Et on retrouve également sur lui un cahier sur lequel il a écrit des poèmes. Et au juge d'instruction qui l'interroge, il répond vous n'avez qu'à lire les poèmes, tout est dans les poèmes. Le juge les lit, n'y comprend pas grand chose, convoque son meilleur ami qui est le narrateur, et le narrateur se faire l'exégète du recueil de poèmes et aider le juge à dénouer les fils de cette passion amoureuse et l'aider à résoudre l'enquête à travers les poèmes.
Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse.
Précisément, les titres de vos livres sont très, très beaux. C'est vous, les titres, ou c'est la team avec l'éditeur?
Non, c'est toujours moi qui choisis mes titres, mais... Le premier, c'est un emprunt à Danton. Tu montreras ma tête au peuple. C'est la phrase que prononce Danton sur l'échafaud. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Puis ensuite, il est guillotiné et le bourreau ramasse sa tête au fond du panier, la brandit par les cheveux et la montre aux gens qui sont agglutinés devant la guillotine. Le deuxième, Évariste, c'est la vie d'Évariste Galois, génie des mathématiques, mort en duel à l'âge de 20 ans. Je vais donner ce titre très simple, Évariste, qui est son prénom. Et puis un certain monsieur Piekielny... Je ne pouvais pas, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais le propos du livre était justement de faire en sorte que ce nom de Monsieur Piekielny soit le plus prononcé possible, soit lu, soit prononcé. Donc j'étais obligé de le faire.
Un hommage.
Voilà, j'étais obligé de le faire figurer dans le titre. Cet homme, cette souris triste, comme l'appelle Gary, qui voulait justement que son nom soit entendu par les grands de ce monde. Eh bien, je voulais qu'il se trouve également en couverture d'un roman. Et mon maître et mon vainqueur, là, c'est un emprunt à Verlaine.
Et Évariste, alors justement, donc un mathématicien. Qui est effectivement mort très jeune dans un duel. Ma question, ce serait pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Comment ça vient le choix d'un sujet
Évariste, je l'ai découvert quand j'avais à peu près 14-15 ans, pourtant à une époque où je ne lisais pas de livres, mais j'étais quand même tombé sur un livre qui s'appelait Le dernier théorème de Fermat, dans lequel. Une grande aventure intellectuelle mathématique dans laquelle l'auteur expliquait comment la plupart des plus grands mathématiciens ont buté sur ce qu'on a appelé le dernier théorème de Fermat, et comment l'un d'entre eux, Andrew Wiles, a fini par le résoudre en utilisant en partie les travaux d'un certain Évariste Galois. Et moi, je lis ça et il y avait 2-3 pages sur Évariste qui brossait à grands traits sa biographie. Et j'étais très marqué par cette histoire. Et bon, je l'avais dans un coin de ma tête depuis très jeune. Et après mon premier livre... Je voulais écrire sur 3 duels, celui qui a vu la mort de Pushkin, celui entre Hamilton et Burr aux États-Unis, et celui sur Évariste Galois. Et en faisant des recherches sur Galois, je me suis rendu compte qu'il avait une vie tout à fait fascinante, très romanesque, mais qu'en plus sa biographie était pleine de trous, que seul un écrivain pouvait essayer de combler. Et puis il y avait aussi le fait qu'il soit très connu de la communauté scientifique, de la communauté mathématique, mais assez peu connu du grand public. Et je voulais en quelque sorte le sortir de l'oubli dans lequel il se trouvait de manière tout à fait injuste à mes yeux. Et donc il y a plusieurs facteurs. Et c'est un personnage que je trouve tout à fait fascinant, génie romantique, Rimbaud des mathématiques, comme on l'avait écrit sur le bandeau qui ceint le livre. Et je me suis mon projet d'écrire sur 3 duels finalement s'est un peu transformé et j'ai fini par consacrer un livre à Évariste Galois et à écrire une biographie romancée de la vie d'Évariste Galois.
Il vous reste 2 duels alors?
Il me reste 2 duels sur lesquels écrire que je pense sur lesquels je n'écrirai jamais.
Par rapport au style, alors, est-ce que voilà, c'est une question évidemment que chaque écrivain se pose. Comment vous définiriez ou vous travaillez
c'est simple. Si l'auditeur en train d'écouter le podcast ferme les yeux, il serait tout à fait capable de reconnaître votre voix de la mienne. Bien, le style en littérature, c'est exactement la même chose. C'est le grain, le modelé d'une voix, mais à l'écrit. C'est-à-dire, je crois que tout écrivain devrait aspirer à ce qu'un lecteur ayant déjà lu un de ses livres puisse en ouvrir un autre sans avoir lu le nom de l'auteur sur la couverture et en quelques lignes se dire « Ah, ça c'est du Marcel Proust ou du Flaubert ou du Jean Echenoz ou je ne sais quoi, ou du Patrick Modiano ou du Maïlis de Carangal ou... ». Moi, je, évidemment, comme tout écrivain, je pense que c'est une chose à laquelle j'aspire, c'est-à-dire que mon écriture soit... quelle est sa singularité, qu'elle soit reconnaissable entre... si ce n'est entre 1000, entre plusieurs. Et comment ça se travaille, c'est une langue qui devient naturelle, je crois, au fil des années et qui est le fruit de beaucoup de lectures, de beaucoup d'imitations. Je crois que lorsqu'on commence à écrire, on imite, on écrit un peu à la manière d'eux. Et moi, j'ai eu tour à tour plusieurs périodes. Et aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'il y a quelque chose qui de plus en plus m'est propre, mais j'essaye de continuer à tracer ce sillon en m'améliorant de livre en livre.
Je pense que c'est une bonne méthode.
Cela dit, je ne crois pas qu'il y ait de bonne méthode pour écrire. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Somerset Maugham qui disait « Il y a 3 règles impératives à suivre pour écrire un bon livre ». En général, quand il disait ça, il laissait un silence puisque l'auditoire était suspendu à ses lèvres. Et il ajoutait « Malheureusement, personne ne les connaît. »
je m'attendais à écrire.
Non, mais je crois que... Et moi, lorsqu'il m'arrive de faire des rencontres dans les lycées, et lorsqu'un lycéen me demande « Alors monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire? Quel est le secret ?» Eh bien, le seul conseil que je peux leur prodiguer, c'est de lire beaucoup. Il faut avant tout être un grand lecteur.
Et vous aimez ça accompagner le livre, c'est-à-dire justement aller à la rencontre des gens, alors que ce soit des lycéens ou des...
Disons que... Ça dépend si ça dure pas trop longtemps. En fait, il y a un peu de tout. On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Il y a des rencontres qui sont miraculeuses. Le mot serait peut-être un peu fort, mais qui sont très fortes vraiment. J'ai eu des rencontres qui ont été magnifiques et d'autres qui vous font tout à fait désespérer de l'avenir de la littérature. Donc, on ne sait jamais à quoi s'attendre et c'est pareil. Vous savez, on va dans les médias ou dans des médiathèques, ou dans des écoles, ou dans des salons du livre, ou c'est différent à chaque fois, et c'est... Bon, voilà, c'est comme dans la vie. Et, enfin, parfois, c'est à désespérer de tout, et parfois, c'est ouais, y a un petit miracle qui se produit, il y a une petite... comment dire, ouais, est-ce que j'aime, je sais pas.
Vous le faites.
Je le fais. Ouais. C'est je bien. Le fais, mais si je le fais, je crois que c'est sans déplaisir finalement, parce que lorsque on voit qu'il y a un enthousiasme autour d'un livre qu'on vient de publier, c'est très agréable. Ouais.
Je vais vous laisser justement retourner au salon. Et pour conclure, j'aime bien terminer sur cette question. Si quelqu'un qui nous écoute a envie de se lancer justement, mais n'ose pas, quel serait le conseil?
De se lancer dans quoi?
Dans l'écriture, pardon.
Ah, dans l'écriture. D'y renoncer sur le champ. Non, bah, de se lancer dans l'écriture. Quel serait le conseil pour devenir un bon écrivain? De lire, je dirais vraiment. Lire. Et je crois que, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose de s'entraîner au pastiche. Et d'ailleurs, Proust, qui est quand même un de nos plus grands écrivains, a d'abord été un imitateur, un pasticheur. Il a commencé par des pastiches. Et pour se forger un style, je crois que ça peut être pas mal d'essayer d'en pasticher d'autres. Ouais. mais comme ça, d'écrire des petites nouvelles de 2-3 pages en essayant de... Et comme ça, on démonte un peu les mécanismes de l'écriture d'un auteur. On voit le choix très précis des mots, le rythme de la phrase, l'esthétique de la ponctuation, etc. etc. Et je pense que ça peut être un bon moyen d'essayer de commencer. Mais de lire beaucoup et de prendre conscience que c'est un vrai travail. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, vous savez, si vous mettez un novice devant un piano et qu'il n'a jamais joué, il va avoir conscience qu'il ne sait absolument pas jouer du piano. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, ça y est, s'ils prennent un stylo et une rame de papier ou un ordinateur, ils vont savoir écrire. Mais non, c'est un art et un artisanat et ça prend du temps et même les génies très précoces, même un poète comme Rimbaud qui a donné la totalité de son œuvre entre 16 et 20 ans, cette œuvre était adossée à un savoir. C'est-à-dire que Rimbaud avait épuisé toute la bibliothèque de Charleville avant de commencer à écrire. Donc finalement, il n'y a pas de secret.
Non. Ce sera le mot de la fin.
Ce sera le mot de la fin, Rimbaldien.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.